Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Tous ravis de vous retrouver ce soir encore pour ces 2 heures de partage et de confidence. Merci de votre fidélité à cette libre antenne chaque week-end. Pour entrer dans la boucle, vous connaissez le principe, un seul numéro de téléphone, le 3921. Amandine et Hassan vous attendent au standard Europe 1 sous le regard bienveillant de Fabrice Fougeroux à la réalisation. Et comme toujours, vous pouvez participer, réagir, commenter par SMS en tapant le 73921 et en commençant bien par le mot « nuit ». J'avais envie pour commencer ce soir de partager avec vous un petit conte métaphorique que j'aime beaucoup, car il nous aide à prendre la bonne distance par rapport aux autres, ces autres qui, comme disait Jean-Paul Sartre, représentent quelquefois un enfer. Ce texte est extrait du petit livre de Djihad Darwish, « Sagesse et malice » de Nasreddin, le fou qui était sage. Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau, au point de ne pas vouloir sortir de la maison, pensant toujours qu'on allait se moquer de lui. Son père lui répétait qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Alors Nasreddin lui dit « Demain, tu viendras au marché avec moi ». Le lendemain, ils quittèrent la maison, le père sur le dos d'un âne et le fils à pied. À l'entrée de la place du marché, les hommes étaient assis à bavarder et en voyant Nasreddin et son fils, ils lâchèrent. « Regardez cet homme, il se repose bien sur le dos de l'âne et laisse son pauvre fils marcher à pied ». Nasreddin et son fils firent donc le contraire. Le fils monta sur le dos de l'âne. Et le père continua à pied. Ils entendirent alors « Pfff, regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse de laisser son père comme ça, le pauvre vieux, obligé de marcher à pied. » Donc ils décidèrent de faire encore autrement et aucun des deux ne monta sur l'âne. Et les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles, ils ont un âne et ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Ils essayèrent donc encore une autre solution, celle de monter tous les deux sur le dos de l'âne. Les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Donc, Nasreddin décida de porter l'âne sur ses épaules avec l'aide de son fils. Les deux hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer, ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur leur dos. » Au bout d'un moment, Nasreddin dit à son fils « Tu as bien entendu ? Quoi que tu fasses dans la vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut jamais écouter ce que disent ces gens-là. » Je souhaite que ce petit texte plein d'humour soit la première clé pour vous libérer de cette prison tellement dévastatrice, de l'importance que l'on donne au regard des autres. Trop souvent, par la crainte de ce regard que nous n'osons, c'est à cause de la crainte de ce regard que nous n'osons pas être la lumière que nous sommes vraiment. Alors, osons la liberté, osons cette liberté, osez vous maintenant cette liberté que vous avez sur cette libre antenne. Laissez les autres être ce qu'ils sont et soyez vous-même. Appelez-moi au 3921.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et avant de prendre Régine à l'antenne, j'aimerais vous rappeler que demain soir, je vous propose une libre antenne spéciale vacances. Vacances extraordinaires, vacances insolites, vacances catastrophes, ou aussi vacances synonymes de solitude, si ça vous angoisse, si cette période-là est compliquée pour vous. Venez nous en parler demain soir. Inscrivez-vous par mail à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. Bonsoir Régine.
Bonsoir.
Alors je vous remercie déjà parce que je sais que vous avez été très patiente hier et que malheureusement on n'a pas eu le temps de passer à l'antenne avec vous. C'est pour ça que je voulais vous prendre en priorité ce soir.
Bon, alors ben, moi, je vais exposer mon problème. J'ai fait une psychothérapie pendant 15 ans. Oui. Je refais une autre psychothérapie avec de l'hypnose suite à vos conseils.
Oui.
Je vous remercie aussi. Je vous apprécie beaucoup. Je trouve que vous donnez de bons conseils.
Merci.
Et je n'arrive pas à avoir du tout confiance en moi. Alors... Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient que j'arrive pas à avoir confiance en moi. J'ai quand même un peu plus confiance que je vois bien que par rapport à ma psychothérapie pendant 15 ans, je tombe sur des compagnons qui me démolissent pas comme c'était le cas hier de comment elle s'appelait, Laetitia, je crois.
Oui, on a eu beaucoup de témoignages hier soir de femmes qui se laissaient maltraiter.
Voilà, ouais. Alors
Oui.
moi, je me, pour l'instant, enfin, je veux dire, j'ai un compagnon là depuis 4 ans et il n'y a pas de mépris. C'est pas admiré, mais il n'y a pas de mépris. Donc, je pense que j'ai quand même progressé par rapport à autrefois.
Vous avez fait
Mais
un chemin avec cette thérapie.
oui, j'ai fait un chemin avec cette thérapie, mais je n'arrive pas à avoir confiance en moi. Par
D'accord.
exemple, au niveau, je n'arrive pas à, je sais pas me débrouiller dans l'ordinateur. Alors, je sais pas d'où ça vient.
Bah, peut-être probablement parce qu'on ne vous a pas appris, tout simplement, non? C'est pas inné, vous savez.
Non, l'ordinateur, j'ai pris des cours, mais j'y arrive pas. Il faudrait que ça soit, comment vous dire, c'est pas, il faudrait que ça soit quelqu'un qui me montre petit à petit.
Vous savez, on va peut-être mettre ça un peu de côté pour l'instant, parce que j'aimerais un petit peu, avant de parler des conséquences comme l'ordinateur, revenir un peu aux causes, parce que je ne vous connais pas, mais quelle a été votre enfance? Comment étaient vos parents avec vous, petite?
Ben, je pense que, enfin, je pense que j'ai, à la naissance, j'ai eu une toxicose. Déjà, j'ai failli mourir.
Oui.
Après, ma mère étant institutrice, j'ai été élevée par ma grand-mère. Avec mon père, j'ai pas eu de. J'ai pas.
Pardonnez-moi, je ne comprends pas bien le rapport avec le fait qu'elle soit institutrice et que vous ayez été élevée par votre grand-mère.
C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de crèche pour comment vous dire, pour garder les enfants. Et ma mère était institutrice, elle travaillait, elle ne pouvait pas me garder.
Mais le soir, elle était avec vous à la maison, non?
Non, elle m'a donné chez sa mère. J'ai été donnée chez sa mère, qui c'était un endroit différent de la maison.
Oui, d'accord.
Et mon père, ça n'a pas été évident, les relations avec mon père.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez pas évident?
Mais il me maltraitait psychologiquement, il était très autoritaire, il manifestait pas d'amour. J'étais pas, comment vous dire, c'était pas ça. Et la semaine dernière, j'ai fait une séance d'hypnose pour couper tous les liens négatifs avec lui. Alors, je sais pas si c'est. On m'a pas valorisé. On me disait, déjà quand je suis arrivée, on me disait que on me voulait pas, qu'on me voulait pas, que j'étais pas belle, que j'avais un mauvais caractère, que j'étais pas facile.
Ouais, c'est beaucoup tout ça. Et cette grand-mère qui vous a éduqué, est-ce que c'était quelqu'un d'aimant?
Eh bien, moi, je l'ai beaucoup aimée. Et dans la famille, elle était pas. Comment vous dire, elle me préférait et dans la famille, elle n'était pas très aimée.
Ah, vous me dites que
Parce qu'elle
vous
était
l'avez beaucoup
autoritaire.
aimée, mais est-ce qu'elle vous a beaucoup aimée?
Oui,
Ah,
oui, oui.
voilà,
Oui,
ça c'est
oui.
important.
Oui, elle m'a aimée. Elle m'a aimée, elle me défendait. Et je ne sais pas, j'arrive pas à prendre. Je veux dire, quand il faut faire quelque chose, j'ai peur de me lancer, je n'ai pas confiance en moi. Et je ne sais pas quoi faire pour ça.
Mais Régine, quand on entend le début de votre histoire, là, c'est comment voulez-vous avoir confiance en vous? Vous étiez une petite fille à qui on n'a pas laissé sa place. Qui, quand elle est arrivée, on lui a dit, bon, on va la mettre chez la grand-mère parce que ben, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle. On vous a jamais dit que vous étiez belle, on vous a jamais dit que vous aviez la valeur.
Non.
Voilà, on a rien mis dans cette petite fille qui pouvait l'aider à grandir de manière sécuritaire. Donc c'est logique que vous n'ayez pas de confiance en vous. Pendant ces années de thérapie, vous avez travaillé sur quoi? Qu'est-ce qui remontait? Qu'est-ce qui
Mais
vous a fait avancer
surtout ce que
principalement?
j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé sur la relation avec ma mère.
Oui.
Relation avec ma mère. Et ça c'est, comment vous dire, c'était conflictuel. Et maintenant, il y a plus de conflit. Bon, déjà, ça c'est bien. Mais j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai pas trop travaillé sur mon père non plus. Et comment vous dire, comment vous dire, c'était pas extraordinaire, quoi.
Est-ce que, en concernant votre maman, est-ce qu'il y avait de la colère? Quelles étaient les émotions que vous aviez envers elle? Quand vous dites j'ai beaucoup travaillé sur ça, vous avez travaillé sur quel genre
Oui, j'avais
d'émotion?
beaucoup de colère.
De colère, oui.
Oui, beaucoup de colère. J'avais beaucoup de colère. Mais je veux dire, maintenant, je n'ai plus de colère.
D'accord.
Les relations avec elle sont très apaisées. J'ai plus du tout de colère, à part que par exemple, je n'ai pas d'enfant. J'ai un compagnon, je n'ai pas d'enfant. Et je me fais beaucoup de soucis pour le futur, comment je vais vieillir. Et elle me plaint pas. Elle me dit pas, ah, je me fais du souci pour toi, à part ça, sinon on s'entend très bien.
Donc c'est apaisé de ce côté-là. Comment se fait-il que pendant toutes ces années, il n'y ait pas eu un travail sur papa qui a été fait?
J'avais du mal à
ça,
parler de mon père.
C'était coincé encore à l'intérieur?
Oui, oui. C'était coincé encore à l'intérieur. Et je veux dire, à la fin, ça allait mieux avec mon père, mais j'avais un peu de colère. Et la semaine dernière, j'ai fait une, comment vous dire...
Une séance d'hypnose, vous m'avez dit,
ouais. Oui, une séance d'hypnose. Ouais. Et on a coupé tous les liens avec mon père. Et là, maintenant, c'est aseptisé.
Vous avez coupé les liens toxiques?
Voilà, c'est ça.
J'ai un peu de mal à entendre que vous avez coupé tous les liens, parce qu'il existe encore votre père aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention de couper les liens toxiques.
Mon père est disparu.
Non. Ah, il a disparu, d'accord, pardon.
Oui, oui.
D'accord, j'avais pas cette info-là.
Oui. Et j'ai eu aucune peine. Aucune okay. peine.
Est-ce que ça vous a apaisé, cette séance? Est-ce que ça vous a permis de prendre une distance par rapport à...
À mon père?
Oui.
Par rapport à l'hypnose? Oui, ça m'a... je me sens, comment vous expliquer, aseptisée. Je sais pas, je trouve pas un autre mot. Comme si c'était...
Neutre, quoi.
Voilà, neutre. Je me sens neutre.
Donc neutre, c'est plus apaisant quand même que des émotions douloureuses.
Mais j'ai comment vous expliquer, j'ai pas, je suis indifférente, quoi. J'ai pas de haine, j'ai pas d'amour. Je suis quand ça s'est passé, quand j'ai eu la séance d'hypnose, j'étais neutre. J'étais contente et je suis neutre maintenant. C'est il y a pas de haine, il y a pas d'amour. Et l'autre jour, je me disais, il était comme ça parce que sûrement il devait pas être bien dans sa peau, équilibré. Et c'est comme ça. Que...
Alors, exactement, c'est exactement ça dont je voulais parler avec vous. Pour travailler sur la confiance, ce qu'il faut faire, c'est observer les choses avec le recul de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et vous demandez si tous ces moments où vous avez été rabaissé, humilié, maltraité, est-ce que c'était justifié? Par exemple, est-ce que quand votre mère vous a dit des choses peut-être pas aimables ou n'a pas été assez soutenante, qu'elle n'a pas accentué votre. Qu'elle ne vous a pas dit que vous aviez de la valeur, des choses comme ça, est-ce qu'elle n'a pas réagi en fonction de ses propres blessures? Quand votre père a été maltraitant, est-ce que c'était justifié? Est-ce que vous étiez responsable de ça? Bien sûr que non. Donc aujourd'hui, si vous voulez, en tant qu'adulte, vous pouvez refaire l'histoire et vous poser très clairement la question, vous disant, mais finalement, toute la manière dont ils se sont comportés, eux, est-ce que ça change? Est-ce que ça dit des choses sur moi ou ça dit des choses sur eux?
D'accord.
Ça dit plutôt des choses sur eux, vous êtes bien d'accord avec moi?
Oui, 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 oui.
Et oui. Et donc ça n'enlève rien à la valeur que vous avez, à cette petite fille que vous étiez, qui avait beaucoup de valeur. Simplement, il s'est trouvé qu'elle est arrivée, cette petite fille, dans un contexte d'adultes qui eux-mêmes étaient visiblement
oui,
un peu submergés par leurs propres problèmes.
Oui, ils étaient submergés. Ils avaient une ferme, ma mère travaillait, ils étaient submergés. Et moi, je suis arrivée 2 ans après mon frère, et en plus j'étais malade, j'ai failli mourir. Donc c'était trop pour eux, et ils ont fait comme ils ont pu, quoi.
Alors sachant ça aujourd'hui, avec le recul, si vous vous dites, est-ce que mon père et ma mère m'ont rejeté parce que j'étais nulle, ou parce qu'ils souffraient, eux, de leurs propres blessures?
Bah ouais.
Et voilà.
Oui, oui.
C'est comme si aujourd'hui, vous pouviez aller prendre la petite fille que vous étiez par la main en lui disant, mais tu sais, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, t'as peut-être cru que t'avais pas de valeur, mais tu en as beaucoup de valeur.
Ouais.
Parce que la confiance, c'est là qu'elle se construit. Quand on comprend que tout ce que les autres ont fait ou dit n'a rien dit sur nous, sur la petite fille qu'on était. C'était malheureusement, c'est la vie qui a fait qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su vous donner l'amour, la sécurité, la confiance, l'estime. Bon, ça, vous ne pourrez pas le refaire. On ne peut pas changer le passé. Par contre, vous pouvez changer la manière dont vous interprétez le passé. Avec l'expérience aujourd'hui, vous êtes une grande fille, avec l'expérience d'adulte que vous avez, vous pouvez avoir un autre regard sur la petite fille que vous étiez, qui, elle, à l'époque, n'a pas compris tout ça. Parce que quand on est enfant et qu'on est rejeté, qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? Ben, c'est de ma faute.
Oui, oui, oui.
Et oui. On se dit, si j'avais été mieux, meilleure, plus belle, plus intelligente, on ne m'aurait pas rejeté, on m'aurait aimé. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Et donc, aujourd'hui, avec le regard d'adulte que vous avez, vous pouvez réinterpréter cette histoire-là. C'est la même histoire, mais vous la voyez avec des yeux différents. Et comme vous le dites vous-même, vous l'avez compris, bah, ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu, finalement.
Oui, oui, oui. Mais je veux dire, j'ai pas de haine pour eux, j'ai rien. Et je pense, je veux dire, en hypnose aussi, on va traiter la petite fille intérieure que j'étais. On va le traiter, ça.
Ah, ben voilà, une très bonne chose. Pardonnez-moi, on va juste, si vous le permettez, faire une courte pause. Régine, oui. Une petite pub et je vous récupère de l'autre côté pour voir comment on peut travailler aussi sur la confiance maintenant, d'accord ?
Oui, je vous remercie.
Ne bougez pas, à tout de suite.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Régine, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là.
Oui, vous me disiez que vous allez travailler sur cette petite fille, et ça, je trouve que c'est une très, très bonne chose.
Oui, 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 oui. C'est prévu dans la... Parce qu'on va faire des séances d'hypnose, et la psychologue m'a dit qu'on allait supprimer tous les vieux liens avec les gens de ma famille.
Tout ce qui est encombrant et inutile de garder pour la suite.
Voilà, c'est ça. Oui. Et ensuite, on allait travailler la petite fille intérieure.
Ça, c'est très bien. Et donc, vous allez travailler la confiance aussi.
La conscience.
La confiance.
La confiance, oui.
Et la première chose pour travailler sa confiance, c'est arrêter de laisser les autres vous définir. Ce ne sont pas les autres qui décident de qui vous êtes et de la valeur que vous avez, c'est vous.
D'accord. Non.
Deuxième chose, c'est arrêter de se comparer. En tant qu'être humain, malheureusement, on passe notre temps à se comparer aux autres. On croit toujours que l'autre est mieux, plus beau, plus intelligent, plus ceci, plus cela. Mais ce qui est amusant, et je peux vous le dire parce qu'en cabinet, j'entends ça à longueur de journée, c'est que les autres se disent la même chose de vous. C'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement, on est tous en train de se dire que l'autre est mieux, et l'autre, il vous dit non, non, c'est elle qui est mieux. Et quand on prend un peu de recul, on se dit juste qu'il faut arrêter de se comparer.
Arrêtez aussi. Je me compare.
Eh bien, tout le temps, mais on est tous comme ça.
Oui, moi, je me compare.
Et même, c'est amusant, même les femmes les plus belles, c'est les mannequins, si vous savez comme elles sont bourrées de complexes, et comme elles se comparent aussi aux autres, et comme elles sont aussi en souffrance, ça n'a aucun sens de se comparer. Regardez un jardin, qu'est-ce qui fait la beauté d'un jardin ? C'est que chaque fleur est différente.
Oui.
Imaginez un jardin où elles seraient toutes pareilles, la même taille, la même couleur, la même forme. Ce serait tellement triste. On est tous et toutes complètement différents et c'est ça qui fait notre richesse.
Oui.
Alors on a des jambes plus courtes, on a des seins plus petits, on a des cheveux de telle couleur, on a une telle taille, on est... Voilà. Et alors ? La valeur, elle n'est pas là. Donc arrêter de se comparer, c'est déjà un énorme pas en avant. Arrêtez aussi de se faire des films, c'est-à-dire que souvent on se dit « Oh là là, mais moi j'ai pas de conversation, moi j'ai rien à dire ». Allez un peu dans des lieux publics, allez dans un café, dans un restaurant, écoutez les conversations des autres. Ils ont rarement des conversations philosophiques, vous savez. Tout le monde parle du quotidien et des banalités de la vie quotidienne, c'est normal. Et là aussi on a tendance à se dire « Non mais moi j'ai pas de conversation ».
Et c'est ce que je me dis des fois.
Ben voilà, pourquoi croyez-vous que je vous parle de ça, bien sûr.
Ouais.
Puis arrêtez de se faire des films. J'aime bien cette petite phrase aussi où on dit à 20 ans, on s'inquiète beaucoup de ce que les autres pensent de soi. À 40 ans, on se dit qu'on se fout éperdument de ce que les autres pensent de soi. Et à 60 ans, on se rend compte que la plupart du temps, ils n'ont rien pensé de particulier.
Ouais.
Et c'est vrai, ça aussi, ce sont des scénarios qu'on se fait. Non. Et quand on a fait ce ménage, vous voyez, quand vous allez faire ce grand ménage intérieur, vous allez aussi nettoyer tout ça. Et puis, vous allez pouvoir commencer à être capable de faire la liste de ce que vous avez fait de bien dans votre vie, de vos qualités. Parce que quand on manque de confiance en soi, la première chose, c'est qu'on est incapable de s'attribuer les qualités qu'on a. Et pourtant, si vous aviez une meilleure amie, peut-être vous en avez une meilleure amie qui viendrait vous voir en vous disant « Écoute, je suis nulle, je réussis rien dans ma vie », et que vous deviez la consoler, je suis sûre que vous trouveriez plein de choses pour la consoler.
Oui.
Hein ? Alors devenez votre...
Oui, j'ai une meilleure.
Oui ?
Pardon.
Non, je vous écoute.
J'ai une meilleure amie, oui. J'ai des amis.
Eh bien, soyez votre meilleur ami aussi. Hein.
Mais merci beaucoup.
C'est quelque chose qu'on oublie d'être le plus souvent, ça. Être soi-même déjà notre meilleur ami. Ça veut dire aussi être capable d'avoir autant d'indulgence pour soi qu'on en a pour sa meilleure amie. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on n'est pas très indulgent. Hein.
Je suis assez indulgente.
Avec vous-même ?
Ah non.
Eh bien, voilà.
Pas avec moi-même.
Et bien voilà, c'est là qu'il faut remettre le curseur au bon endroit. C'est d'abord avec soi qu'il faut l'être. Mais ce qui me rassure, Régine, c'est que vous avez trouvé un bon thérapeute, là, une bonne thérapeute, après ce que j'ai compris.
Alors, je ne sais pas, parce que elle est bien,
oui.
Mais elle n'est pas très bien.
Ah, qu'est-ce qui vous chiffonne ?
Qu'est-ce que c'est qui me chiffonne ? C'est moi qui dis les choses. Je dis, il faudrait travailler ça, il faudrait travailler ça, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant. Et elle ne me dit pas comme vous dites, vous. Je veux dire, quand je vous entends tous les soirs, je vous écoute tous les soirs, et je comprends tout. Alors qu'elle, c'est moi qui dis, je veux travailler sur la petite fille intérieure. Je souhaite faire ça.
Peut-être qu'elle ne vous connaît pas encore. Vous avez fait une seule séance, donc il faut qu'elle...
J'en ai fait trois.
Ah, vous trois en avez fait trois. Bon.
Ouais, trois séances.
Bon, il faut peut-être le temps qu'elle s'habitue à vous, qu'elle fasse connaissance et qu'elle voit ce qui fonctionne avec vous aussi.
Oui, oui. De toute manière, j'ai mis du temps à la choisir et je la trouve bien.
Bon, alors gardez ce qui est positif et avancez. À la limite, peu importe que ce soit elle ou vous qui mettiez le doigt sur ce sur quoi il faut travailler. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous avanciez sur ce terrain-là.
Ouais, ouais.
Hein? C'est bien aussi d'arriver face à un thérapeute et dire voilà, j'ai déjà moi défriché le terrain, débroussaillé le terrain et j'aimerais travailler sur ça et ça. C'est une manière enrichissante aussi d'aborder la séance. Hein?
Ouais, ouais.
Peu importe que ça vienne de vous ou d'elle, moi ce qui m'importe c'est qu'à la sortie ça aille mieux.
Ben oui, oui, hein? Je suis mieux. Oui, oui.
Donc ça c'est déjà très bon signe.
C'est-à-dire que j'avais un petit peu de colère par rapport à mon père et là j'en ai plus. Voilà, j'ai plus de colère.
C'est important parce que la colère est destructrice hein. Et pas pour l'autre, elle est destructrice pour soi la colère.
J'ai même hier je me suis dit s'il était comme ça c'est parce que il n'était pas bien dans sa peau. Je l'ai pardonné, quoi. Hier, je me suis dit... ça aussi, je vois que c'est quelque chose que j'ai avancé là-dessus. Et puis, par exemple, aussi, j'avais besoin de beaucoup de sucre. Et depuis que j'ai fait cette séance d'hypnose, j'ai moins besoin de sucre.
Et oui, c'est ce qu'on appelle la nourriture doudou.
Ouais, ouais, voilà.
Et bien sûr.
Si, j'ai progressé et j'ai plus de colère. Mais je vous dis, c'est... le terme que je choisis, c'est aseptisé. J'ai ni haine, ni amour. C'est comme ça.
C'est neutre. Mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, j'ai réussi à pardonner. Et ça, c'est très, très important. Quand on arrive du fond du cœur à pardonner, alors on se libère du poids le plus lourd qu'on porte pendant des années et des années.
Mais par rapport à ma mère, ce que je voulais vous dire quelque chose, c'est que quand j'étais petite, elle me donnait des gifles pour que je mange. Et ça, j'ai pas de haine. Je me disais, elle faisait ça parce qu'elle pensait que c'était bien à l'époque, parce que j'ai quand même 57 ans, et j'ai pas de haine. Je dis, elle a fait parce qu'elle pensait que c'était bien. J'ai aucune haine.
Vous avez fait un très joli bout de chemin, Régine, et ça, c'est vraiment bien. Et vous savez, quand on dit pardonner, c'est pas le pardon biblique, hein, c'est pas je tends la joue pour prendre une autre gifle, c'est simplement comprendre. C'est pas oublier, certainement pas, c'est pas se dire que c'était pas grave non plus, c'est se dire « je m'aime assez pour me libérer des liens qui m'unissent à l'autre par mon manque de pardon. Je me libère de ce qui à moi me fait du mal. » C'est ça vraiment ce que j'entends par pardonner, vous voyez, c'est ça qui est important. Et de ce que j'entends, vous avez fait un joli chemin déjà.
Oui, oui. Et je n'ai plus de haine, j'ai plus rien. Et je vous dis, c'était vraiment très conflictuel avec ma mère. Maintenant, il n'y a plus de conflit. Donc ça a été très positif. Bon. Mais je n'arrive pas à avoir confiance en moi. Alors,
mais attendez, ça va venir. On va dire pour l'instant, c'est comme si vous aviez fait un grand ménage. Donc pour l'instant, vous avez sorti tous les fantômes du placard, vous avez tout nettoyé, vous avez été dans une sorte de réparation. Maintenant, vous allez dans la construction.
Ouais,
il y a encore une phase de réparation avec la petite fille. Et ensuite, il y aura une phase de construction, de reconstruction de cette confiance en vous.
Ouais, ouais.
Donc ça va venir.
Oui, oui. Hein? Et je vous dis, tout ce que vous... c'est grâce à vous que j'ai fait de l'hypnose. Parce que j'en avais fait avant et vous ai dit que c'est... Un jour, vous avez expliqué pourquoi l'hypnose, ça marchait. Et j'ai dit, je vais recommencer à faire de l'hypnose. Mon médecin était contre et moi, j'ai tenu tête. J'ai dit non, on va recommencer à l'hypnose. Et ça marche.
Mais très bien, comme je dis toujours, vous êtes la meilleure personne au monde, la personne la mieux placée pour savoir ce qui vous convient ou pas. Aucun médecin n'a à s'opposer à quoi que ce soit d'aucune thérapie. Vous essayez, vous voyez si ça vous convient ou pas. Vous êtes adulte, vous le savez très bien. Donc c'est bien que vous soyez écouté et c'est bien que vous ayez trouvé quelqu'un avec qui vous allez avancer maintenant, Régine. Je suis contente pour vous.
Oui, oui.
D'accord ?
Oui. Merci beaucoup.
Merci de votre appel et de votre confiance.
Et j'écoute beaucoup vos émissions.
C'est gentil. Merci. Je vous embrasse, Régine.
Au revoir.
Au revoir. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Alors, racontez...
Vous m'entendez bien ?
Oh, je vous entends très bien. Vous avez une voix pleine de sourires. C'est très agréable.
Oui, ça va. Je l'appelle de bonne humeur quand même.
Racontez-moi votre histoire à vous, alors.
Alors, en fait, j'appelle surtout parce que hier j'ai écouté votre émission et elle m'a touchée. Elle m'a touchée parce que moi, quand j'avais 18 ans, je suis tombée amoureuse d'un homme et l'histoire a été plutôt compliquée. Et du coup, en fait, quand j'ai entendu toutes ces femmes discuter hier, je me suis dit que ça valait la peine peut-être d'en parler.
De partager ça. Oui, vous mentionnez, vous faites référence notamment à Stéphanie, je pense, qui s'était...
Oui, exact. Stéphanie
incroyablement sous l'emprise de cet homme, et Laetitia aussi, oui, sans s'en rendre compte.
C'est ça, exactement, alors, et c'est un peu le même ressenti que j'ai eu, donc
alors,
c'est pour ça que...
Pardon, je vous coupe, mais je vais en profiter pour dire quelque chose d'intéressant. J'ai reçu un mail aujourd'hui, je ne dirai pas qui, mais d'une des personnes qui est passée à l'antenne, et qui m'a dit, figurez-vous, que j'ai écouté le podcast, et en écoutant le podcast, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de recommencer une thérapie très très vite. Donc c'est intéressant parce que finalement elle s'est auto-analysée en parlant beaucoup et en réécoutant l'émission. J'ai trouvé que c'était intéressant effectivement de se dire ben voilà, en me réécoutant je me suis entendue finalement.
Eh ben oui, ben je pense que ça peut être pratique pour elle, hein, parce que du coup c'est vrai que quand on s'entend après on se dit ah mais c'est l'impact que la personne a sur moi effectivement.
C'est que d'un seul coup on prend le recul et on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur en se racontant, et c'est ça qui est intéressant sur cette libre antenne. Donc voilà, ça a démarré pareil à 18 ans avec l'emprise de quelqu'un de plus âgé.
Oui, voilà. Bon, je ne veux pas préciser l'âge, mais j'avais pas 18 ans, il avait la trentaine. Et ben, ça a démarré simplement, c'est-à-dire on se rencontre, on passe du temps.
Mais comment à 18 ans, vous rencontrez un homme de 30 ans ?
Eh bien, par les contacts, les cercles d'amis, c'est-à-dire que j'avais une amie qui était, comment dire ça, qui était dans la musique, et cette personne-là est dans la musique, et du coup... comment dire ça, de fil en aiguille, j'en suis venue à être chez lui. Et donc, bon, moi, au début, j'étais pas venue pour ça. J'étais plutôt j'accompagnais plutôt mon ami. Et puis, de fil en aiguille, finalement, je suis tombée sous le charme de la personne.
Le charme des musiciens, en plus.
Oui, voilà, en plus, oui.
Ça joue.
C'est ça. Puis, une personne assez charismatique, assez... mystérieuse aussi, avec beaucoup de conversations. Enfin, voilà, une personne, bon, quand on a 18 ans, on se dit, on peut facilement être impressionné, en fait. Et finalement, il s'est avéré que 4 mois après notre rencontre, on se soit mis ensemble, on va dire, et que moi, j'ai décidé de partir de chez ma mère pour aller m'installer chez lui.
Direct, au bout de 4 mois.
Oui, voilà. C'est ça, c'est-à-dire je me suis dit, bon, je suis en études à Toulouse, donc je profite du fait d'être là pour habiter sur Toulouse même, quoi.
Et elle a pris ça
plutôt que dans la périphérie. Mais ma mère, elle était plutôt enthousiaste, parce que bon, ma mère, c'est une personne qui aime nous encourager à faire nos propres expériences, en se méfiant. Mais bon, j'étais assez convaincue moi-même, donc je ne vais pas laisser le choix. Donc voilà, je voulais prendre mon envol.
Ouais, vous voilà partie pour cette première histoire de couple.
Voilà, qui se passe chez la personne. Donc, mais du coup, l'histoire commence et au bout de quelques mois déjà, je me rends compte que, comment dire ça, on va dire que quand on est en pleine découverte d'une personne, c'est plutôt, on prend du temps pour elle, de passer les moments. Puis j'ai bien vu que quand je me suis installée, tout ça, ça a été réduit et que la personne m'a bien fait comprendre qu'elle avait un travail. Donc, dans tous les cas... ces projets passeraient toujours avant. Donc moi, je me suis dit, dans tous les cas, je suis étudiante. Donc moi aussi, j'ai du temps à occuper. Mais c'est vrai que j'étais partie un peu peut-être dans l'idée qu'une personne plus âgée m'aiderait à avoir un cadre, vous savez, une sécurité dans la tête, pour aider la jeune fille que je suis. Oui. Voilà, exactement. Voilà, donc après, finalement, c'est parti comme ça.
Pardonnez-moi de vous poser la question, mais il y a un papa dans votre histoire ?
Oui, mon papa mon papa n'était pas au courant, je pense.
Non, mais vous n'êtes pas allé chercher un père de substitution avec cet homme-là ?
Ben, peut-être. C'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui. Peut-être que c'est une question. C'est vrai que moi, j'ai toujours. Étant plus jeune, j'ai toujours été attirée par les hommes un peu plus âgés, en me disant. En pensant à ce cadre, à cette sécurité.
C'est ça, oui. C'est pour ça que je me posais la question quand je vous entends dire, voilà, j'aurais aimé qu'il me porte, qu'il y ait un cadre et tout ça. Dans une histoire d'amour, c'est étonnant de commencer à dire, j'avais besoin d'être cadrée.
Ouais.
C'est pas forcément le rôle d'un amant ou d'un amoureux.
Exact, oui, c'est vrai. c'est tout à fait exact. Aujourd'hui, si j'y pense, je me dis oui, effectivement. Enfin, c'est un peu le déclic qui a fait que, en dehors des problèmes, je suis partie et qu'aujourd'hui, je me suis dit que c'est pas comme ça qu'il faut que je voie les choses.
Mais est-ce qu'il y a eu quand même des beaux moments pendant cette période-là ?
Oui, quand même. Il y a eu beaucoup de moments de discussion, de partage. Mais on va dire, moi, ce qui m'a étouffée, c'est cette c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si, comme vous dites, un homme n'est pas un papa, à un moment donné, dans la relation, c'était toxique. Parce que, je prends l'exemple de ce que disait Stéphanie hier, on a l'impression de compter trop peu par la personne. Et ça devient frustrant. Et ça devient où on a l'impression d'être invisible, en fait, et d'être aux caprices de la personne. Et c'est ces moments-là qui ont fait que j'ai été très malheureuse pendant cette période, jusqu'à ce que j'ai le déclic de me dire il faut peut-être que tu partes quand même.
C'est-à-dire, c'est allé jusqu'où pour que vous vous sentiez tellement invisible ?
Ben, c'est-à-dire que, à un moment, c'est-à-dire, à un moment, j'arrêtais mes études parce que j'étais pas forcément à l'aise aussi avec. Ce que je faisais, donc j'ai arrêté et je travaillais en fait avec lui à ce moment-là, du coup. Et j'avais l'impression d'avoir vraiment un rôle secondaire dans la relation. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la maison, la vaisselle, les papiers pour la musique, mais que derrière ça, il n'y a plus de temps passé à deux, il n'y a plus d'activité. J'avais l'impression d'être plus des mains qu'une copine, en fait.
Des mains
qui pouvaient faire quelque chose, qu'une copine qui pouvait apporter de l'amour et avec qui on pouvait construire quelque chose.
Ce qui, à votre jeune âge de l'époque, n'était pas très intéressant ni valorisant.
Bah, du coup, non. Ouais. Du coup, non, je me suis vite rendu compte que comme si j'étais un peu piégée, mais à mon propre jeu, puisque moi-même, j'étais partie en me disant, bon, cette personne-là pourra m'aider. J'étais partie confiante, on va dire.
Quand vous racontez ça, j'ai presque l'image, vous savez, du vieux couple où madame s'occupe de la compta de l'entreprise et monsieur fait tourner la boîte.
Et finalement, ça a été ça pendant un an et demi, quoi. C'est-à-dire pendant un an, j'étais en cours, donc j'avais mon rythme un peu. J'arrivais à avoir mon petit espace. Et puis dès que j'arrêtais les cours, c'était vraiment... La maison, parce que le travail se faisait à la maison. Donc c'était H24, maison. Et dans tout ça, j'ai eu l'impression que ma personnalité, mes ambitions, tout ça, s'effaçait en fait. Je pensais jamais à moi en fait. J'étais toujours... je me levais le matin en me disant, bon, qu'est-ce qu'on va devoir faire aujourd'hui pour être efficace ou... Mais voilà, il n'y avait pas la notion de couple. Finalement, c'était comme si à la fin, on était deux bons associés.
Une association, oui, c'est ce que j'allais vous dire.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui a été le déclic, le facteur déclenchant pour vous ?
Eh bien, le facteur déclenchant, c'est que... C'est le manque de considération. C'est-à-dire que moi, j'étais très amoureuse et j'ai bien senti que sur plusieurs reprises, sur plusieurs choses, que ce n'était pas forcément réciproque et que je tolérais ou j'acceptais beaucoup de choses sans prendre de recul et voilà. Et du coup, j'étais malheureuse parce que je savais que la personne n'était pas forcément très honnête sur tous les sujets, très honnête dans ses relations avec d'autres femmes.
Ah,
et
en plus.
Voilà, il y avait aussi toute cette partie-là où c'était devenu... Voilà, c'était vite devenu... je voyais de mes yeux, mais je n'acceptais pas.
Vous n'aviez pas envie de le voir, en fait.
Exactement, je me mettais un foulard et je me disais, bon, dans tous les cas, je suis avec. Puis même à un moment, je sais que j'étais déjà partie, puis je suis revenue en me disant, bon, quand on commence une relation, c'est pas forcément facile, donc on peut pas abandonner au bout de 6 mois. Et finalement, je me dis, j'aurais peut-être pas dû revenir à ce moment-là.
En fait, vous faisiez compromis sur compromis, mais lui, aucun, quoi.
Exactement. Ouais. Donc, en fait, à la longue, j'étais errante, quoi. J'étais là sans être là. Puis l'amour. Voilà, je pense à un moment quand les désillusions sont cassées. Enfin, quand on n'a plus de désillusions, on prend une douche froide. Donc, on commence à réfléchir, à cogiter, à se dire, bon, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans, j'ai arrêté mes études. Je suis avec un homme plus âgé qui a des projets et qui s'en sort très bien. Et quelle est ma place, en fait, dans tout ça? Pourquoi je suis là? Et est-ce que je mérite pas mieux pour moi-même et voilà quoi. Est-ce que je suis encore vraiment amoureuse de cette personne? Pourquoi pourquoi je continue alors que je ressens pas ce bonheur en fait.
Bah, il me semble que vous vous êtes posé les bonnes questions. Hein.
Oui, bon, ça a été un long cheminement hein, parce que du coup entre la première année et la deuxième année, c'est des choses que j'avais déjà tiltées, mais je me suis dit. Mais non, on verra.
Bah, oui et non, parce que quand on entend les témoignages qu'on a eu hier sur des histoires qui ont pu durer comme ça pendant 20 ans, vous vous en êtes dépassé vraiment rapidement.
Oui, c'est un peu pour ça que je me suis dit, bon, je vais appeler parce que ça me touche. Mais c'est vrai que sur ces longueurs-là, je me dis, j'espère que ces femmes trouveront ce courage, enfin, pas ce courage, c'est ce temps de penser à soi, en fait.
Oui.
Voilà, c'est le temps de se dire... Oui, je suis amoureuse, oui, j'ai l'impression que c'est cette personne qui me faut, mais le bonheur, est-ce que je le ressens réellement? Est-ce que le soir, quand je me couche, je suis heureuse? Est-ce que ma journée est heureuse? Ou est-ce que je suis malheureuse parce que je me ronge, parce que j'attends un message, parce que j'attends une attention qui n'apparaît pas?
Parce que je ne me respecte pas moi-même dans cette relation.
Voilà.
Comment est-ce que vous avez réussi à partir et vous reconstruire autrement?
Ben voilà, ben c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, on va dire que j'étais lassée, donc j'ai commencé à ressortir, en fait, parce que je m'étais vachement coupée de mes amis, de mon rythme, en fait, de jeune, quoi. Du coup, j'étais plutôt la ménagère à la maison, on va dire, sans méchanceté pour les personnes qui
sont chez eux. Non, je comprends, sauf que c'était pas de votre âge, quoi.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à ressortir, à revoir des amis, et puis là, je me suis dit, bon, Jamie, enfin, bon, peut-être qu'il y a un problème, quoi, peut-être que c'est pas ce qu'il te faut parce que là tu sors, tu es plus heureuse, tu bouges, donc c'est un peu mieux. Et puis le fait que je savais qu'il y avait des relations cachées que je ne savais pas et que j'ai tolérées, à un moment je me suis dit bon, c'est pas comme ça que j'entrevoyais le bonheur, même si moi je me vois plus tard avoir mon mari, mes enfants, et oui, faire tout ce qui attelle à la maison et à l'entretien de la vie.
Mais pas que, et puis avec des choses en échange, quoi, évidemment.
Exactement, et en fait, ben, j'ai pris le déclic, et j'ai fait mes affaires, sans discussion aucune. Un jour, je suis arrivée, j'ai pris mes affaires et je suis repartie chez ma mère. Un peu honteuse, d'ailleurs, mais... après avoir chanté que ça allait être mon futur mari. Un peu honteuse, quand même.
Bon, c'était quand même bien de pouvoir retourner au nid, hein.
Oui, exactement. Ça, pour ça, je remercie énormément ma mère, parce que c'est quelqu'un qui nous soutient toujours, qui nous laisse beaucoup d'indépendance, mais qui est toujours là quand on se casse la gueule, quand on tombe, en fait. Et même sans tomber, c'est quelqu'un qui est très présente.
Ça, c'est formidable. Et alors donc, nouveau départ, reconstruction, vous faites quoi?
Eh bien, voilà, ben, nouveau départ, reconstruction. Donc, je rentre chez ma mère un peu honteuse. Je me dis, bon, je pleure ce que j'ai à pleurer.
Oui, il y a un voilà, temps pour ça. Voilà, il y a un temps pour s'asseoir sur le champ de ruines et puis un temps pour bouger.
Voilà, donc après je ressasse un peu, je me dis bon, effectivement, j'étais malheureuse parce que j'avais l'impression que ça allait que dans un sens, tout le temps, et sur tous les sujets, que voilà, le manque de confiance aussi a grandi, donc il faut pouvoir rebondir. Donc en fait, je me suis raccrochée à mes études, je me suis dit bon voilà, j'ai 20 ans, je vais pas rester sans rien faire, donc j'ai entrepris en fait direct de chercher un travail, de repenser à qu'est-ce que j'allais faire après, en fait. Qu'est-ce que j'allais reprendre pour reprendre le cours de ma vie, en fait. Voilà, après, je sais que je me suis aussi défoulée en faisant un peu de sport. Ça m'a permis de faire une césure, en fait. Évacuer. En fait, tout a été tourné sur... il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu retrouves goût à la vie, retrouves goût, la confiance aussi. Et que tu te poses les bonnes questions, voilà, pourquoi plus vieux, pourquoi forcément cette personne, qu'est-ce que t'attendais vraiment?
Qu'est-ce que je suis allée faire dans cette histoire, quoi?
Voilà, qu'est-ce que j'ai été faire et pour ne pas recommencer, en fait, pour ne pas recommencer.
Est-ce qu'il a essayé de vous récupérer, lui?
On va dire, oui et non, mais vaguement, par le biais de personnes, on va dire, qui m'envoyaient des messages du style « la personne est malheureuse », retourner. Mais oui, je pense qu'après, c'est quelqu'un qui est assez entouré pour pas forcément montrer sa détresse, donc je n'ai pas eu cette conversation directement avec lui.
Ce qui est intéressant, voilà, c'est quand on a compris pourquoi on y est allé, ce qu'on est allé chercher, on n'y retourne plus, en fait.
Oui.
Et bien, c'est pour ça. Après, l'autre, il peut faire ce qu'il veut. Quand on a compris soi-même, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'autre qui importe, c'est soi. Dans toute relation, ce n'est pas le comportement de l'autre, on n'y peut rien. C'est comment moi j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi comme ça, et qu'est-ce que je veux changer ? Qu'est-ce que je dois réparer pour pas recommencer ça ?
Exactement.
Et quand on en est là, on évite les mêmes erreurs, quoi.
Exactement, c'est vrai. Moi, j'ai appris voilà, de cette relation que j'étais peut-être un peu trop... que vu que la personne était plus âgée, avec plus de connaissances, ou que j'avais l'impression de... Oui, j'étais impressionnée. Donc, du coup, par exemple, j'avais pas beaucoup de réparties, quoi. Je laissais tout...
Oui, c'est ça. Pensez qu'il avait plus de valeur que vous.
Exactement, voilà. C'est-à-dire, voilà, je bronchais pas, quoi. C'est... Mm-hmm. Du coup, même par rapport à ça, je me suis dit, c'est...
Marie ?
Ça ne veut pas dire être quelqu'un d'hystérique ou de querelleur, mais plutôt savoir dire non quand c'est non, savoir tolérer.
Ah, Marie, vous m'entendez ? Allô, allô ? Ah, il y a une coupure. Marie, je ne sais pas si vous nous entendez, mais nous, on vous a complètement perdu. Qu'est-ce qu'on fait, Fabrice ? On fait une petite pause musicale, on essaie de rappeler Marie, puis on la récupère après les infos, je pense, si on peut.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
D'Europe 1, il nous reste donc une petite heure à passer ensemble. N'hésitez pas à continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez appeler jusqu'à 1h du matin. Vous faites le 3921, vous tomberez soit sur Amandine, soit sur Hassan qui vous guideront jusqu'à moi. Je vous rappelle aussi que comme chaque soir, vous pouvez bien sûr participer à l'émission, réagir par SMS en tapant le 73921 et en pensant bien à commencer par le mot nuit. Et puis je vous rappelle que demain soir, demain dimanche, je vous propose une libre antenne spéciale consacrée aux vacances. Alors vacances, ça veut dire aussi vacances extraordinaires, vacances insolites, vacances catastrophes, pourquoi pas. Mais on peut aussi parler de la solitude si vous voyez arriver cette période avec inquiétude, avec angoisse, si vous êtes seul. Parlons-en demain soir, inscrivez-vous par mail dès maintenant à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr, libreantenne en un seul mot. La libre antenne spéciale vacances, c'est demain soir sur Europe 1.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Marie, vous êtes là ?
Oui.
Ah, on vous a récupéré ?
Oui.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est l'essentiel, c'est que la communication soit rétablie.
Oui, c'est ça, je ne sais pas non plus, donc je m'excuse.
Alors, où est-ce qu'on en était ? On parlait de reconstruction et vous me disiez que voilà, le fait d'avoir compris ce que vous étiez allé chercher vous a permis de ne pas y retourner, en fait.
Oui, exactement. En tout cas, même après, j'ai pu rencontrer quelqu'un pareil, un peu âgé. J'ai dit, bon, j'ai vite vu que non, il y avait un souci dans ma manière de chercher les choses. Mm-hmm. Donc bon, après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien de cibler les personnes qui ont mon âge et d'apprendre plus tranquillement plutôt que rechercher une sécurité, en fait. Voilà. De rechercher une sécurité, en fait.
Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes bien maintenant avec des gens de votre âge ?
Ben oui, du coup, là, je suis avec mon copain, ça fait un an, et tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien, parce que c'est vrai qu'une personne de notre âge, c'est plus intéressant, même au niveau des choses qu'on va échanger.
Ben vous parlez la même langue, ça, c'est sûr.
Oui, oui. Donc, c'est ça. On a plus de, comment dire ça, plus de...
De points communs, d'affinité.
De ressemblance, d'affinité, voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas, je pense que dans la vie, quand on a un certain âge et qu'on a déjà bien avancé, qu'on a déjà vécu sa vingtaine, on cherche autre chose, en fait. Donc, c'est sûr qu'une personne qui a 20 ans, c'est pas les mêmes aspirations, en fait. Enfin, pour moi,
C'est logique, il y a toute une expérience à se faire, à construire, toute une vie à découvrir. Et quand vous disiez le fait d'être avec un homme plus âgé, ça vous a donné l'impression que vous n'aviez pas de valeur, c'est juste que lui, il avait plus d'expérience que vous, c'est pas une question de valeur, hein.
Oui, aussi, oui.
Ah oui, mais l'expérience, l'expérience, c'est pas forcément une qualité, c'est juste qu'il a vécu 13 ans de plus que vous et qu'en 13 ans, on apprend des choses.
Exact, on apprend à rebondir et pareil, on apprend à se protéger face à des situations. Du coup, on est plus exigeant. Enfin, voilà. Donc, je pense aussi que la personne, elle était préparée, en fait. Je pense qu'elle s'en sort plus indemne parce que c'est des choses qu'elle a dû vivre aussi. Hein.
Oui, mais ce qui est important pour vous de comprendre, c'est qu'il n'avait pas plus de valeur que vous, il avait juste plus d'expérience.
Oui.
Et aujourd'hui, l'expérience, vous êtes en train de vous la construire, au jour le jour.
Exactement. Exactement. Et plutôt bien.
Vos projets en commun avec ce garçon, alors, c'est quoi?
Ben, c'est emménager ensemble.
Mm-hmm.
Emménager, et après pareil, hein, profiter, profiter de notre vie, avoir des enfants.
Donc là, vous n'avez pas encore aménagé avec lui?
Non.
Donc
non,
par
non.
rapport à la première fois, vous avez déjà appris qu'il vaut mieux prendre son temps, peut-être?
Oui, en fait, oui. C'est-à-dire que la première, enfin, cette expérience m'a vraiment permis de me dire, il faut d'abord que je me concentre sur moi.
Oui.
À me former moi-même, à affirmer mon caractère, à obtenir, à atteindre mes objectifs. Et après, effectivement...
Oui. C'est ce que je répète souvent, être d'abord bien avec soi, c'est la clé pour être bien avec l'autre.
Oui.
Quand on attend, tant qu'on attend que l'autre vienne nous apporter une solution, alors on n'y arrive pas. C'est pas à l'autre de nous faire grandir, c'est à nous-mêmes. Ah, Marie ? Ah bon, écoutez, là, on va vraiment arrêter, parce qu'on n'y arrive pas ce soir avec Marie. C'est pas grave. Bonsoir Marie, on a donc Aurore en ligne maintenant, si tout va bien ?
Oui, bonsoir.
Ah, bonsoir Aurore. Bah, écoutez, ça me permet de vous prendre bonsoir. Un peu plus rapidement, puisque ça a coupé.
Merci, c'est gentil.
Bienvenue sur cette antenne, Marie. Ah, Aurore, pardon. Je suis perturbée là par ce double bip.
C'est pas grave.
Alors, c'est je vous grave. Écoute.
Voilà, en fait, je vous avais appelé le 12 janvier, en fait, et je vous rappelais juste pour vous donner quelques nouvelles, voilà.
Mmh. Alors, resituez-nous un petit peu, de quoi nous avions parlé à cette époque-là.
Je suis étudiante en psycho.
Mmh.
Et j'avais eu pas mal de problèmes avec mon père parce que il me prenait pas mal de mon temps. J'étais obligée de faire un peu comme Marie, toutes les corvées ménagères, on va dire.
Oui, je me souviens très bien de vous maintenant, oui, tout à fait. C'était,
voilà.
C'était un peu abusif, hein, son comportement.
Voilà, et en plus, il y avait les disputes qui ne cessaient pas. D'un côté, ça va mieux parce que j'ai du temps pour moi, j'ai su m'affirmer sur ce point-là. Mais il y a toujours ces disputes qui sont interminables, en fait. Voilà.
Oui, c'est une manière qu'il a de garder le contrôle, en fait, la dispute.
Oui, parce que à chaque fois que... Bon, des fois, c'est pour... Enfin, la plupart du temps, c'est pour des trucs vraiment, vraiment subtils, enfin, qui n'auraient même pas lieu d'avoir des disputes. Et après, ça prend une ampleur, mais phénoménale, quoi, en fait. Alors, du coup, j'ai suivi au conseil de ne rien lui reprocher. Alors, c'est vrai que ça calme un petit peu le jeu. Et je vous avais envoyé la lettre que j'avais écrite, mais je ne sais pas si vous l'avez reçue parce que vous ne m'avez jamais répondu.
Ah oui, c'est vrai que vous deviez m'envoyer la copie de la lettre que vous vouliez écrire. Non,
oui.
Non, quand je m'engage à quelque chose, je le fais toujours. Donc, si je l'avais reçue, je vous aurais répondu.
D'accord, vous pouvez écouter. Sinon, j'essaierai de vous la renvoyer si vous êtes d'accord.
Oui, bien sûr, bien sûr.
D'accord.
Mais c'est pas toujours évident. Donc... C'est vrai, à Europe 1, le courrier m'arrive pas forcément. Donc, ou alors très très longtemps après. Quelquefois, c'est 6 mois après qu'on me le remonte. Donc,
D'accord.
C'est un peu particulier.
D'accord. Non, mais donc, voilà, de ce point de vue-là, bon, j'ai repris l'équitation, comme je disais à Sam. J'ai repris un peu la musique. Mais voilà, il y a toujours ces disputes qui sont interminables, qui sont vraiment... puéril, en fait, dans certains cas, c'est vraiment puéril. Et voilà.
Mais on a presque l'impression, dans cette relation, que c'est vous l'adulte.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Oui.
C'est exactement ça.
Et c'est pas très normal. Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de comprendre par quel chemin vous avez réussi déjà à prendre cette distance et à vous libérer de tout ce qui était un peu toxique et de reprendre du temps pour vous. Comment ça a fonctionné dans votre esprit pour que ça marche comme ça?
Déjà, après notre conversation, parce que vous m'avez quand même... justement, vous parliez de confiance avec Régine. Et justement, je pense que je manquais un peu de confiance en moi aussi. Du coup, j'ai pris un papier, un stylo, comme j'aime bien écrire. Et j'ai listé tout ce qui allait pas, en fait.
Mm-hmm.
Et à partir de là, je me suis dit, je vais rester positive. Je vais prendre tout ce qui va et
tout ce que
je vais mettre
capable
tout ce qui va pas de côté.
Exactement, c'est très bien.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et... Ben, par exemple, il m'interdisait de jouer de la flûte à bec chez moi. Et ben, je me suis un petit peu imposée, en fait, on va dire.
Mmh.
Voilà. Le piano, c'est pas possible, il veut pas. Et même moi, pour le moment, j'ai du mal à me remettre au piano. Et au moins, je fais de la flûte à bec, c'est déjà pas mal. Et
vous avez grignoté des nouveaux espaces de liberté, quoi.
Voilà, c'est ça. Après, bon, j'ai repris l'équitation. Bon, ça, j'avais arrêté parce que j'avais fait une grosse chute il y a 6 ans, mais j'ai repris l'équitation. Donc, voilà, j'y vais. Ben, là, j'y allais pas parce que, ben, à cause de mes études, j'avais mes partiels à passer. Et je voulais pas les rater, quoi. Donc, je les ai passés, tout va bien. Et donc, là, j'ai repris l'équitation pendant les vacances. Donc, voilà.
Donc ça, c'est très bien. Et comment est-ce que lui a réagi à toutes ces petits réglages là, qui ont changé?
Ah, ben, il n'était pas très, très content parce
Eh
que,
oui.
ben, il voyait que bien que c'était plus pareil. Enfin, vous voyez que c'était un peu, enfin,
Vous étiez
que je...
moins lisse et moins manipulable.
Voilà, c'est ça exactement. Donc, c'est vrai que bon, ça, bon, après, il y a eu ce fait que, bon, il était à l'hôpital, là, il a fait beaucoup d'allers-retours dans les hôpitaux, donc ça m'a un petit peu aidé aussi. Mais après, c'est vrai qu'il s'énerve vraiment pour rien, et ça, c'est vraiment dur pour moi, en fait, dans un sens.
Alors
Voilà.
là, ce qui est très clair, je le dis souvent, vous n'allez pas pouvoir le changer, lui.
Non,
Malheureusement,
ça, je...
ça serait à lui de faire une thérapie pour évacuer sa colère ailleurs, mais ça, vous ne pouvez pas l'obliger. Donc, quand on ne peut pas changer quelque chose ou quelqu'un, on peut juste changer la manière dont on se positionne par rapport à ce qui se passe ou à cette personne. Donc, vous avez commencé à le
Oui.
faire sur des petites choses pratiques. Il va falloir arriver
Oui.
à le faire sur le côté moral, c'est-à-dire vraiment lâcher prise. Il faut être deux pour qu'il y ait une bagarre.
Oui, c'est
Hein?
ça. Mais déjà avec vos conseils, en fait, quand il s'énerve, quand il commence à s'énerver, je dis plus rien, en fait. Quand il me demande de répondre, je réponds plus, je le
Très
laisse
bien.
parler et voilà, déjà ça.
Sinon, quoi qu'il arrive,
Mais
avec le type de personnalité que vous m'aviez décrit à l'époque de votre papa,
oui.
quoi que vous disiez, c'est de l'huile sur le feu, de toute façon.
Exactement, c'est exactement ça. Voilà.
Oui, c'est ça.
Oui.
Il se nourrit de tout. Et comme il cherche l'affrontement, il cherche la bagarre parce qu'il a des choses à régler lui-même et que malheureusement, il se trompe de cible, mais ça, voilà, c'est son histoire. On en avait déjà parlé.
Oui, mais de toute façon, elle était déjà comme ça avec ma mère. Et en fait, ben, la dernière dispute, en fait, ben, enfin, ça m'a fait un petit déclic aussi, c'est que il se victimise beaucoup, beaucoup,
Oui,
beaucoup, et ça m'énerve.
complètement.
Voilà, ça m'énerve.
Il sait,
Je lui ai
enfin,
dit.
ce que je vous dirais, c'est que la différence, Aurore, entre votre mère et vous, c'est que votre mère, elle l'a choisi.
Oui,
Vous êtes
voilà.
sa fille. Il n'a pas à se comporter comme ça avec vous. Mais effectivement, il s'est enrôlé, il s'est drapé dans son rôle de victime. Il s'est construit un
Exactement.
petit quotidien, finalement, bah, pas trop inconfortable, puisque vous vous occupez de beaucoup de choses. Et lui, avec son petit ego, il n'a pas du tout intérêt à ce que ça change tout ça.
Mais de toute façon, le problème, c'est que bon, ben, bon, y a pas mal de personnes qui l'ont laissé tomber, quoi, aussi. Enfin,
Bah forcément.
c'est. Voilà.
Et
Donc.
après, il pleure probablement en disant oui, je suis tout seul, on me laisse tomber.
Exactement.
Ah oui,
C'est
mais
exactement
c'est.
ça. Oui. Vous avez tout compris.
Alors qu'il le
Et...
provoque. Mais là, bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment vous continuez à vous épanouir et à grandir dans un contexte comme ça. Et vraiment, le seul moyen, c'est ce lâcher prise total. Ou même lui répondre gentiment, je n'ai pas les moyens d'entrer dans ce conflit. Juste, voilà, j'ai pas les moyens de le faire. Donc, je rentre pas là-dedans.
J'ai déjà essayé de le faire, mais ça,
Même ça, il fait du
c'est
cheval
pas passé.
dessus, ça marche pas?
Ah non, c'est pas passé du tout. J'ai pensé aussi, mais c'est gentil de me le conseiller, mais non, ça a pas marché.
Ouais, parce qu'il sent que vous vous libérez, ça lui plaît pas, quoi, forcément.
Oui, voilà, c'est ça. Il sent vraiment que je suis plus la même qu'il y a 6 mois. Vous voyez,
Ah bah, vous n'avez pas
grâce
la
à vos
même, là, vous
conseils,
n'avez pas la
ça.
même voix ni la même façon de parler, ça c'est clair. Hein. On sent que vous avez pris votre place quand même, que vous avez relevé la tête un petit peu et que ça y est, quoi. Vous existez.
Merci, c'est gentil. Mais c'est grâce à vous en fait, parce que vous m'avez conseillé d'aller voir une psychothérapeute vu que je fais des études de psycho, mais par contre ça s'est très très mal passé avec elle. Donc
Vous avez
voilà.
quand même avancé.
Un petit peu, oui.
C'est l'essentiel. C'est pas grâce à moi, Aurore, c'est grâce à vous. Vous savez, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ouvre des portes. Et mon job, c'est de
Oui,
vous
mais
dire,
c'est.
voilà, j'ouvre la porte, regardez ce qu'il y a derrière. Après, vous y allez pas. Il y a des gens qui n'y vont pas. Bon, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Vous y êtes allé. Vous êtes allé voir ce qu'il y avait derrière et vous avez avancé.
Non, mais justement, c'est quand même un peu grâce à vous, parce que sinon, j'aurais peut-être pas forcément pensé tout de suite.
Alors,
Enfin,
le début du chemin, on va dire,
parce
c'est
que.
grâce à moi, et la suite, c'est grâce à vous, et vous attribuez-vous ça aussi. Dites-vous merci à vous-même. Hein.
D'accord, mais.
C'est
Oui.
important. C'est important. Quand on
Et
manque de,
oui,
c'est ce
ben.
qu'on disait tout à l'heure, quand on manque de confiance, on a du mal à s'attribuer nos mérites.
Oui, mais en fait, dans le témoignage de Régis, je me suis beaucoup reconnue, en fait.
Ah oui.
Enfin, pas complètement, mais vraiment un peu quand même.
L'autre est toujours mieux, c'est toujours l'autre qui fait des choses bien, mais moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Alors, cette petite voix-là, on la fait taire, c'est ce qu'on appelle l'auto-saboteur interne. On lui dit, ta bouche, pour être poli, hein, on lui dit, tais-toi, ça suffit.
Oui, oui.
Et on monte le son de l'autre voix, de la petite voix qui vous dit, tu es quelqu'un de bien, tu as de la valeur, c'est bien ce que tu fais, tu y arrives. Mais c'est un combat de chaque jour, hein. c'est pas évident, c'est pas un truc qui tombe du ciel. On a tout ce petit saboteur interne qui tout le temps nous dit, oh là là, je suis nulle, oh là là, j'y arriverai jamais. Oh mais je suis sûre que l'autre est tellement meilleur que moi. Et à chaque fois que cette petite voix-là arrive, on lui dit, tais-toi. Tais-toi.
Mais oui, c'est ce que ma mère me disait avant. Elle me disait, faut jamais que t'abandonnes, faut toujours que tu continues. Enfin, Donc j'ai toujours gardé ça en fait de ma mère.
Mais c'est très bien. C'est très très bien. Et maintenant, je vous dis par rapport à ce, il y a pas de violence physique hein, du tout.
Il y en a eu une et ils m'ont même pas pris la plainte. J'ai juste mis une main courante, c'est tout.
Oui, ça par contre, faites-lui savoir que c'est la limite, inacceptable.
Et oui, mais le problème, c'est que voilà, il n'y a eu qu'une main courante de mise et c'est tout.
Il le sait ?
Ah oui, il le sait.
Non, là-dessus, vous savez ce que j'en pense, hein, Aurore. C'est juste, il n'y a pas de négociation là-dessus. C'est inadmissible.
Oui, mais ça, c'est pour ça que j'ai été portée plainte directement. Enfin, j'ai essayé de porter plainte, mais on n'a pas fait la plainte.
Voilà. Au moins, il y a la main courante, mais s'il y a quoi que ce soit d'autre, vous demandez l'aide d'une assistante sociale, vous partez en foyer, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne restez pas avec lui. Oui. Ça, c'est la limite qui n'est pas franchissable.
Oui.
Qui continue à se détruire lui-même s'il veut, mais il n'a pas à vous détruire, vous.
Oui, c'est ce qu'il faisait jusqu'à ce que je vous appelle, en fait. Donc,
oui, vous avez 22 ans, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, je vous avais envoyé la lettre juste avant mon anniversaire, parce que je voulais lui donner le jour de mon anniversaire.
Oui, c'est vrai, je suis désolée voilà. Là, que ça soit ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, que je ne l'ai pas eu.
Mais ce n'est pas de votre faute, de toute façon. Si vous êtes d'accord, je vous la renverrai, et quand c'est un moment, vous me renvoyez la lettre, je ne sais pas.
Ce qu'on va peut-être faire, c'est que je vais laisser votre mail à Hassan. On va se quitter, Hassan va vous récupérer, laissez-lui votre mail.
D'accord.
Et moi, je vous enverrai un petit mail et vous me l'enverrez par mail à ce moment-là. Ça sera peut-être plus simple. Parce que là, je me méfie. Il y a les vacances qui arrivent. Pendant 2 mois, il y aura d'autres équipes à Europe 1. Je ne suis pas du tout sûre que le courrier va suivre.
D'accord.
Non, ça sera plus simple comme ça. Parce que je n'aime pas me faire une promesse et ne pas pouvoir m'y tenir. Ce n'est pas correct et je n'aime pas ça. Donc, on va aller jusqu'au bout de cette histoire. Hein,
d'accord, c'est gentil. C'est gentil.
Mais continuez à vous protéger, à faire bien attention à vous. Et vous avez une belle vie qui vous attend, une belle vie devant vous. Vous êtes pleine de lumière, pleine de qualité et vous allez développer tout ça dans les années qui viennent, j'en suis sûre.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Je vous embrasse.
Merci, bisous.
Au revoir. Et j'accueille maintenant Épiphanie. Bonsoir Épiphanie.
Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle, je suis un peu émue.
Oh, tout va bien se passer, rassurez-vous.
Oui, voilà, je voulais rebondir sur l'entretien que vous avez eu avec, je crois que c'était la deuxième ou la première intervenante, dont la mère était institutrice.
C'était Marie.
Voilà, Marie, voilà, j'étais pas sûre, c'est pour ça que je n'ai pas voulu dire.
C'était Régine, je ne sais pas de qui vous parlez.
Non, c'était Marie, je crois.
Enfin, peu importe, ok.
Et justement, elle disait que son père était maltraitant aussi, et qu'elle lui a pardonné.
Oui.
Et moi, aujourd'hui, je suis apaisée, 20 ans après ou 30 ans après, plutôt 30 ans que 20. Mais j'ai aucune envie de pardonner. Moi, j'ai envie qu'il meure.
Alors,
carrément.
Racontez-moi ce qui s'est passé.
C'était chaotique. Hein. C'est très chaotique. C'est pas joli à entendre. Hein.
Vous avez été abusée.
Et mon beau-père... pardon ?
Vous avez été abusée.
Oui, j'ai été abusée. J'ai été abusée par les coups, par mon beau-père. Et les viols par son neveu, mais dès l'enfance, quoi, et sur plusieurs années. Et les deux ont bien réussi leur vie. Et moi, j'ai eu une vie chaotique.
Mais bien sûr, ils vous ont cassé.
Ouais, complètement. Et même si je suis apaisée, je ne pense pas que je vais leur pardonner.
Ah non, mais je vais être très claire, il n'est pas question de pardonner l'impardonnable. Là, je suis bien d'accord avec vous. Sur des viols et sur des maltraitances à ce point-là, la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est sur la restitution symbolique pour s'apaiser. Il y a des protocoles de ce qu'on appelle une restitution symbolique, de restituer symboliquement la violence à la personne qui l'a déposée sur nous. Mais pour moi, il est hors de question de pardonner ce qui est impardonnable, bien sûr. Bien sûr, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie de pardonner. Il n'y a rien à pardonner.
Ah non, moi, même si je ne suis pas en colère, je ne suis plus en colère comme avant, je suis apaisée.
Sauf
heureusement,
si...
30 ans après. Mais, pardon ?
Sauf si la personne vient vraiment vous demander ce pardon.
Ah non, non.
Mais dans ces cas-là, jamais, évidemment. Il ne demande jamais pardon.
Ouais.
Donc pourquoi voulez-vous pardonner à quelqu'un qui ne vous demande pas le pardon et qui a commis l'impardonnable ? Là, je suis entièrement d'accord avec vous.
Ouais.
Je suis entièrement d'accord. Non, non, non. On parle de pardon dans des domaines qui sont moins violents que ça, mais là, non, 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 c'est évidemment, je comprends. Mais en même temps, l'essentiel, c'est quand même, comme vous disiez, que vous arriviez à vous réparer suffisamment pour être apaisé. Au moins là-dessus.
Oui, je suis apaisée. Je suis apaisée. Mais malheureusement, au réunion de famille, ce sont des gens que je rencontre, quoi.
Et ça, c'est ça.
Et ils veulent venir vers moi comme si tout allait bien. Il faut que je joue la comédie, que je fasse bonne figure.
Et votre maman, à l'époque, elle n'a pas réussi à vous protéger de ça?
Elle était complice. Elle était complice, ma mère.
Ah,
et ma mère était prof, mais elle était complice.
Pourquoi? Parce qu'elle avait peur, elle-même?
Non, parce qu'on était très nombreux dans la famille. Et c'est moi qu'on battait, c'est moi qu'on violait. Alors, je ne comprenais pas trop. Je me disais, mais pourquoi moi? Un jour, je lui ai dit, mais enfin, pourquoi c'est toujours moi qui bats? Parce qu'il y allait fort, lui. Il me battait vraiment jusqu'à ce que je fasse de la culotte, quoi. Et son neveu me violait. Il a joué le rôle du grand frère et il me violait. Et on était très nombreux dans la famille. Sa mère me mettait à l'écart. Enfin, bref. Malheureusement, il y avait tout le monde. J'étais toute seule. Et j'ai dit à ma mère un jour, j'ai dit, mais pourquoi il me bat tout le temps? Je me doutais bien que je n'étais pas sa fille, quoi. Parce que ma mère m'a dit que c'était mon père. Pendant très longtemps, il a fallu que je découvre toute seule que ça ne l'était pas, mais on s'en doute un peu.
Oui, bien sûr, il y a une partie de toi qui le sait, qui le sent, ça.
Oui, parce que c'est toujours moi qui battais. Je lui ai dit, mais pourquoi toujours moi? Et elle me disait, mais il est saoul. J'ai dit, oui, mais enfin, il ne touche jamais les autres. C'est
oui,
bizarre.
C'est pas une excuse, ça ne veut rien dire, oui, bien sûr.
Oui, ça ne veut rien dire du tout. Et pourtant, c'est une prof, comme quoi ça ne veut rien dire.
Et elle sait que vous avez été violée, votre mère?
Oui, je lui ai dit. Mais elle voulait en plus que je me marie avec lui, quoi.
Oh là là, ouais.
Parce qu'à un moment donné, il est arrivé en France sous forme clandestine et la police voulait l'expulser. Et elle est venue me voir alors que j'étais en galère, au bout de 7 ans, alors qu'elle ne m'avait pas vue. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Voilà, ton père n'est pas ton père ». Je dis « Oui, mais ça, je m'en doutais depuis longtemps. Mmh. » Et justement, avec ce cousin, tu n'as aucun lien consanguin. Vous n'avez aucun lien sanguin ensemble. Donc, tu pourrais te marier avec lui parce que voilà ce qu'elle m'a proposé, quoi. C'est aberrant.
Comme si vous étiez encore une chose à utiliser, quoi.
Voilà, tout à fait. Je sers à ça dans la famille, à être utilisée. Et le violeur est venu, le cousin, ce qu'on appelle cousin, qui n'était pas le mien. Et moi, je les détestais, mais je ne pouvais pas le montrer quand j'étais plus jeune. Ce sont des gens qui étaient très influents dans la famille et que tout le monde aimait, évidemment. Sauf moi. Et il est venu un jour à la maison et je paniquais, je ne savais pas quoi faire. Alors je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Puisque tu as dit à tout le monde que c'est un service que je dois te rendre pour que tu puisses rester en France et ne pas retourner dans ton pays, on va faire une cloison. J'ai trouvé ça bêtement, je ne savais pas quoi dire. Et moi, je vais accueillir mes copains alors que je n'avais aucun copain. Et toi, tu vas rester avec tes copines pour le mettre devant le fait accompli, quoi. Et rien que ça, il m'a dit « Oh ben non, si c'est ça, c'est pas la peine ». J'ai dit « Oui, ben en fait, il voulait me violer jusqu'à la fin de mes jours, quoi ». Alors, évidemment, moi, j'ai refusé le mariage. Mais pour me rassurer, j'ai fait ça. Pour me prouver que c'est moi qui avais raison, quoi.
Comment est-ce que vous avez réussi à tenir debout et à avancer dans la vie avec tout ça?
Oh, j'ai pas pu, Ma vie était chaotique. J'avais pas de libido, même quand j'aimais beaucoup quelqu'un.
Mais oui.
J'ai aimé deux hommes qui étaient merveilleux, mais j'ai rien à leur reprocher. C'est moi qui me suis mise en retrait parce que j'étais vraiment en grande souffrance, quoi. Puis c'est difficile de le dire.
Bien sûr.
C'est très difficile de leur dire parce qu'eux, ils y sont pour rien. Et ils étaient gentils avec moi. Ils comprenaient pas, quoi, que je puisse pas être heureuse.
Il y a une part de vous qui a été cassée pour toujours.
Ben, c'est-à-dire que j'avais pas de libido. Même quand j'aimais beaucoup un homme... Il me disait, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me touches pas. Et je me disais, par quoi je vais commencer? Puis j'ai dit, oh là là, si t'en es là, c'est grave, quoi. Parce que souvent, j'ai fréquenté plutôt des hommes très grands. J'en ai pas fréquenté beaucoup, justement, parce que j'avais pas beaucoup de libido. Je suis sortie beaucoup, avec beaucoup d'hommes, mais sans aller jusqu'au bout, quoi.
Oui.
Au dernier moment, je me défilais, quoi.
Et vous aviez peur que oui, le schéma se recommence encore et encore et encore.
Voilà, donc du coup, moi, je m'en allais. Et les deux hommes que j'ai connus, deux adultes, qui se comportaient bien avec moi, j'ai pas pu entretenir la relation amoureuse avec eux. Mmh. Et comme j'avais rien à leur reprocher, ben, je me suis mise en retrait sans rien dire. Parce que ils faisaient tout pour me rendre heureuse et moi, je l'étais pas. Donc, c'était difficile pour moi de leur dire, ben voilà mon passé. On avait des bons moments ensemble. Moi, j'avais pas envie de gâcher les bons moments qu'on avait ensemble.
Mais en même temps, vous croyez pas
en plombant l'ambiance.
Quand on a vraiment confiance en quelqu'un, on peut tout lui dire parce que c'est important que l'autre comprenne aussi votre passé, votre histoire.
C'est, oui, ça fait partie de vous. Que j'ai rencontré un autre homme et que je suis partie.
Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de pouvoir dire les choses parce que cette histoire-là, elle fait partie de vous et l'autre ne peut pas comprendre s'il a pas cette partie-là de vous.
Oui, mais c'était très difficile. C'était tellement lourd. Et puis une fois, j'ai osé le dire à un homme et il m'a dit « Oh, écoute, c'est ton passé, il faut l'oublier ». Alors du coup, ça m'a bien découragée, quoi.
Est-ce que vous vous êtes fait aider par une thérapeute ?
Oui, bien sûr, j'ai consulté, mais j'ai jamais eu le budget pour faire les techniques MDR et puis l'hypnose. Mmh. Ça m'a beaucoup manqué aussi, le budget adéquat.
Mais même en thérapie classique, ça ne vous a pas permis de vous libérer un peu de tout ça, d'avancer ?
Si, ça m'a permis de me libérer un peu, mais comme c'était vraiment, j'avais de très gros problèmes, il fallait vraiment que je fasse quelque chose de fond, quoi.
Mais vous savez que le MDR, ça permet de résoudre les problèmes rapidement, quand même. Il faut très peu de séances.
Oui, je sais bien, mais même ça, je ne peux pas me l'offrir. Je me suis renseignée, je ne peux pas me l'offrir. Et j'en ai parlé à ma psychologue qui m'a dit que ça ne me conviendrait pas. Mais comme vous dites si bien, c'est nous qui savons mieux ce qui nous conviendrait.
Exactement.
Et je me suis renseignée, je ne peux pas. Je ne peux pas.
Vous ne travaillez...
Peut-être que je pourrais.
Vous ne travaillez pas ?
Si, je travaille, mais je ne gagne pas beaucoup.
Oui, peut-être que ça vaut le coup quand même d'économiser un petit moment pour faire au moins une ou deux séances de vrai nettoyage.
Oui. Ouais.
Parce que là, vous en êtes où dans votre vie privée, personnelle, amoureuse ?
Dans mon amoureux, je n'en ai pas
depuis
longtemps. Ça fait 20 ans que j'ai plus de relations amoureuses.
Et vous voyez l'importance finalement que vous leur donnez, c'est-à-dire qu'ils continuent à vous détruire chaque jour depuis que c'est arrivé.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je n'avais pas de libido, donc c'était difficile. Hein. J'avais envie d'avoir des rapports physiques une fois par mois. Alors, pour fréquenter quelqu'un, c'est vachement dur de dire à un homme...
Je sais que
j'ai pas beaucoup de libido, moi j'avais honte. Hein.
Le fait que vous n'ayez pas d'envie, ça n'a rien à voir avec la honte, c'est cette blessure-là qui n'est pas réparée en fait. Le féminin chez vous est blessé, a été blessé, humilié, maltraité.
Bah oui, même quand je vais chez le gynécologue, elle utilise le sternum qu'elle utilise pour les femmes, pour les petites jeunes vierges.
Mais c'est logique, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a encore un travail à faire, parce que là vous êtes encore en état de traumatisme. Vous n'avez pas encore réussi à vous libérer de ça et vous vous empêchez finalement d'être heureuse. Et de prendre du plaisir.
C'est-à-dire que j'ai une fille qui est malade, malheureusement, qui a des gros problèmes de santé. Mm-hmm. Donc je préfère lui envoyer de l'argent, quoi. Mais je ne peux pas faire les deux.
C'est aussi important que vous teniez debout. Hein.
Pardon ?
C'est aussi important que vous teniez debout et que vous vous répariez sur ce plan-là.
Ouais, mais je suis partagée entre le fait d'économiser pour moi et puis économiser pour ma fille. Parce que je me dis, c'est de ma faute, vu comment j'ai été maltraitée. Je savais que je ne devais pas avoir d'enfant. Mais je n'étais pas prête du tout. Mais la personne m'a prise de force, donc j'ai encore subi un viol. Et c'est comme ça que j'ai... Puis la personne m'a menacée en me disant, si tu ne gardes pas ta grossesse, je te fous à la rue. Quoi. J'étais à droite et à gauche.
Y a quand même
parce que mon beau-père m'a virée... à 17 ans de la maison, la veille de mon bac, même si j'ai quand même eu un bac plus 2 en étant à droite et à gauche chez des copines. J'ai donc eu un enfant de force comme ça et je ne voulais pas retourner à la rue, quoi. Donc j'ai gardé ma grossesse. Et puis moi, j'avais du mal pour m'avorter. Il m'a dit, si tu ne gardes pas l'enfant, moi, je te fous à la porte. Et donc... j'ai gardé l'enfant à tort parce que c'est pas facile du tout et comme ma fille a des gros problèmes de santé, pour moi c'est difficile de pas lui envoyer de l'argent, quoi. Je me dis déjà
pourquoi lui envoyer de l'argent, ça veut dire qu'elle est où cette fille?
Elle vit à Toulouse et elle a des gros problèmes de santé, elle est souvent en arrêt de maladie.
Et son père?
Ah ben son père lui donne rien. C'est pas du tout quelqu'un de responsable.
Ouais. Je comprends tout à fait hein, que vous soyez évidemment responsable d'elle et qu'elle soit votre priorité, mais vous aussi, vous êtes importante.
Mmh.
Et là, j'entends qu'il y a tellement de violence, d'agression, d'humiliation dans votre histoire, qu'il me semble qu'il y a encore du travail à faire.
Oui, il y a du travail de fond, quoi. Donc, vous avez raison, je vais économiser. Je voulais économiser pour peindre mon appart, mais je vais économiser pour suivre ces séances, quand même.
Il me semble que c'est plus urgent que la peinture de l'appartement, pour l'instant.
Ouais, malgré les conseils défavorables de la psychologue.
Oui, alors ça, une fois de plus, je ne vois pas de quel droit elle peut se vous dire que ça vous fait du bien ou pas. Comment peut-elle le savoir?
Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais comme c'est une psychologue, j'ai dit qu'elle doit avoir raison. Mais enfin, moi, si j'avais le budget, je l'aurais fait quand même.
Il y a des très bons psychologues qui pratiquent aussi le MDR ou l'EFT. Hein. C'est pas cloisonné, forcément. Peut-être parce que c'est...
Pardon?
Je dis, il y a des très bons psychologues qui pratiquent l'EMDR ou l'EFT. Peut-être que cette personne-là ne le pratique pas et que du coup, elle est fermée à ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et une fois de plus, c'est à vous de voir si ça vous convient.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie d'essayer.
Si ça peut vous aider à ouvrir d'autres portes et à trouver un apaisement, ça me paraît vraiment important.
Ouais. Hein? Oui. Non, je voulais parler de ça. Quoi.
Bah oui, je comprends, il y a tellement de choses et je trouve que vous êtes même bien courageuse parce que je vous sens quand même forte et toujours debout. Hein.
Ah oui, puis même à l'école, j'étais parmi les meilleurs élèves de ma classe, voire la meilleure
pendant les dernières années. Quelle belle victoire. Hein.
Oui, malgré tout.
Mais, oui.
Mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, quand un homme me drague, d'abord, je ne m'en rends même pas compte. Jamais.
Bah non, vous avez verrouillé cette partie-là. Je vous dis
un homme me sourit, je me dis qu'il est en forme, quoi. Moi, je ne dis pas qu'il me drague, quoi.
Ouais.
j'ai du mal. Et quand ça m'arrive, je me dis, comment je vais lui dire, j'ai pas de libido, j'en ai une fois par mois. Mmh. C'est difficile. Hein.
Oui, je vous dis une fois de plus, le féminin est blessé chez vous, recroquevillé. Mmh. Et c'est ô combien normal après tout ce que vous avez vécu comme agression et comme violence.
Mmh.
En même temps, quel âge avez-vous, Epiphanie?
J'ai 48 ans.
Bon, et c'est encore l'âge où vous pouvez vous reconstruire et vivre plein de belles choses derrière encore. C'est pour ça que ça vaut quand même le coup.
Mmh.
Hein
mmh. Oui, donc vous pensez qu'il faut quand même que je fasse ces séances-là.
Oui.
Quoi.
Mmh. Parce que là, il y a quand même y a des choses lourdes, hein, très lourdes.
Oui, c'est très lourd. Ouais.
Et ça, c'est pas du domaine juste de la conversation, c'est vraiment du domaine du traumatisme.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que quand elle m'a dit « Oh ben non, moi je ne pense pas que ça vous conviendrait », je dis « Pourquoi vous ne voulez pas que j'en fasse ?» Elle me dit « Parce que je pense que ça ne vous conviendrait pas. » Je me suis dit « Ah bon, comment ça se fait qu'elle me dit ça? Elle n'en sait rien. »
Écoutez, essayez vous-même et faites-vous confiance. Si ça vous convient, vous le saurez très très bien.
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
D'accord.
D'accord.
Gardez cette... Parce que je sens en vous une jolie lumière et une... Quelque chose de beau, de fluide, de fort.
Oui, c'est vrai. À part ça, sans me vanter, j'ai plein de qualités.
Oui, j'entends ce petit sourire et cette personnalité qui est bien agréable.
Oui. Oui, c'est vrai.
Bon,
c'est
alors...
vrai, mais c'est vrai qu'au niveau amoureux, c'est pas ça, quoi. J'ai pas de libido. J'en ai rarement.
Eh bien, vous allez réparer ce féminin blessé chez vous et ça va repartir, vous allez voir. Ça va revenir.
Mmh. Même quand j'aime beaucoup quelqu'un. Hein. Mmh.
Là, en ce moment?
Non, pas en ce moment, mais je dis, même quand j'aime beaucoup quelqu'un,
bien sûr,
ça n'active pas la libido, ça vient de moi.
Et bien sûr, on peut pas soigner un traumatisme simplement avec une histoire d'amour, malheureusement. Donc quand vous aurez fait ça, avec la prochaine personne, vous verrez, ça se passera beaucoup mieux.
D'accord.
Vous allez vous libérer, vous allez vous soigner et vous allez vous autoriser à prendre du plaisir.
D'accord. Merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1.
Et c'est maintenant Eric que j'accueille avec grand plaisir. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci de votre accueil. J'écoute régulièrement votre émission depuis maintenant pas mal d'années. J'écoute également les podcasts régulièrement et on apprend toujours des choses très intéressantes pour nous-mêmes et les personnes qu'on peut connaître. Il y a beaucoup de bons conseils à suivre. Alors voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé dans ma vie, très brièvement, et puis juste après, en deuxième partie, je viendrai à la raison de mon appel, suite à une rencontre que j'ai faite il y a quelques semaines, et qui malheureusement s'est terminée il y a quelques jours, par SMS, je me suis fait larguer par SMS, voilà, j'ai trouvé ça très, très élégant. Alors, voilà, donc, je vais commencer un petit peu par le début. J'ai eu une enfance assez malheureuse, avec un manque d'amour de la part de mes parents, une adolescence dans la violence, que ce soit physique ou psychologique, toujours de mes parents, avec aussi l'impossibilité de faire les études que j'aurais voulu faire initialement. Et donc, je me suis émancipé et j'ai quitté le domicile à 16 ans et demi. Mmh. Ensuite, j'ai eu un drame assez grave en mars 1986. Je venais d'avoir 18 ans et un mois. Mon père, qui était policier, s'est suicidé avec son arme de service. Ensuite, ma vie professionnelle s'est plutôt bien déroulée. J'ai rencontré une femme à peu près sérieuse quelques années plus tard et nous avons eu une fille ensemble en 1994.
Qu'est-ce que vous appelez à peu près sérieuse? C'est curieux comme adjectif.
Bah, parce que j'y ai fait confiance et à vrai dire, il n'y avait pas que moi qui venait à la maison, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui, donc voilà. pas sérieuse du tout, oui.
Voilà. Bon, elle a fait aussi des tentatives de suicide. Bon, je sais pas pourquoi. Hein. C'est pas moi qui ai mis des cachets sous le nez. Et donc, la séparation a été très douloureuse puisque, comme j'avais appris qu'elle m'avait trompé chez moi, j'avais essayé de trouver un deal en disant je souhaite une résidence alternée ou alors ben, on ira en justice et au vu des éléments que j'ai contre toi. Le juge décidera, même si un homme, surtout en 1997, c'est très compliqué d'obtenir une résidence, alors qu'on n'a rien à se reprocher, premièrement, qu'on a un enfant de 4 ans et que tous les indicateurs sont au vert, c'est-à-dire l'instituteur, les amis, la famille, etc. Alors, j'aurais pu avoir une cinquantaine d'attestations sans prétention qui parlaient de moi en bien, tout simplement.
Comment est-ce que vous avez découvert qu'elle vous a trompé, qu'elle vous trompait chez vous?
Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je travaillais en discothèque en plus de mon travail de la semaine, où j'étais commercial, et j'avais un ami. Hein, vous voyez, il faut se méfier parfois des amis. J'avais un ami qui venait à la discothèque, et puis je ne comprenais pas, il partait à 2h30, et moi, je terminais à 4h. Et puis, un jour, je suis rentré chez moi, et j'ai ma voisine qui m'a dit « Je peux vous voir ?» Je dis « Oui, pas de problème ». Il était 6 heures du matin à peu près. J'ai dit, depuis quelques semaines, il y a quelqu'un qui vient chez vous, j'ai noté le numéro d'immatriculation, etc. Alors là, je suis tombé des nues. J'ai gardé ça pour moi au départ. Et puis bon, après, j'ai fait le rapprochement avec la voiture. Donc j'ai tout de suite compris ce qui s'est passé. Et puis après, on a eu une explication les yeux dans les yeux. Ça s'est plutôt mal passé. Puis à ce moment-là, j'ai dit, écoute, on arrête les frais. Tu gardes l'appartement. Je te laisse la deuxième voiture. Moi, je me barre avec notre enfant et puis on attendra la décision du juge. Et le cadeau que j'ai eu, eh bien, c'est très simple. Elle s'est exilée en Guadeloupe. Ensuite, j'ai été victime de fausses allégations d'abus sexuels sur ma fille.
De la part de qui?
De la part de la mère de ma fille.
Oui, d'accord.
Pour se couvrir. Je vais même vous dire, j'ai eu l'occasion de passer sur votre antenne avec le médiateur Roland Pérez, Pérez, je crois, l'avocat. Donc, en fait, en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ma fille a été exilée en Guadeloupe. Moi, je me suis battu pour mon innocence. Ma fille a subi expertise gynécologique, pédopsychiatrique, qui ont bien démontré que ma fille n'avait jamais subi la moindre agression, etc., qu'elle était vive, décontractée, coopérante et qu'elle ne souffrait d'aucune inhibition par rapport à son âge. Hein, c'est dans le rapport. Malgré cela, il a fallu que j'attende plus de deux ans, pour avoir un non-lieu, dans une situation de non-droit absolu.
Puisque... Et la petite était toujours en Guadeloupe ?
Oui, tout à fait.
Mais c'est ensuite, pas considéré comme un enlèvement quand il n'y a pas eu de jugement?
Ah non, pas du tout, parce que vous savez, un père ou une mère, on n'enlève pas un enfant. Simplement, si c'est un père qui part en Guadeloupe, on va considérer que c'est un terroriste. Si c'est une mère, je suis désolé, j'ai rien contre les femmes, je respecte les femmes, parce que malheureusement, il y a également des femmes et des mères, il y en a beaucoup qui subissent des injustices à ce titre, avec des pères qui partent dans un pays très très loin. Donc voilà, donc pour faire simple, j'ai été innocenté. J'ai fait une grève de la faim et tout, j'ai même fait la une des médias, j'ai été dans un quotidien national, sur France 3, chez vous, sur d'autres radios, pour démontrer mon innocence, pour prouver mon innocence, rendez-vous compte. Bon. Ensuite, j'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse. La mère de ma fille a été mise en examen sous contrôle judiciaire, donc déjà, quand on est sous ce chef d'accusation, c'est que il n'y a pas un grain de sable dans le dossier, il y a quand même un bon saut de sable déjà. Mmh. Et la même chose pour ses parents. Et ensuite, ce cinéma a duré plus de 7 ans en Guadeloupe. Donc moi, j'ai mis 2 ans pour être innocenté, 2 ans et demi. En 2000, c'était bon. Et entre 2000 et 2007, ça a duré plus de 7 ans. L'instruction a duré, en matière correctionnelle, a duré plus de 7 ans. Et c'était assez comique, puisque... un juge d'instruction, je tairai son nom bien évidemment, un juge d'instruction qui avait été muté en Guadeloupe parce que il y avait eu des soucis sur son parquet, parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais un juge d'instruction qui soit bon ou mauvais, il fait carrière, et quand il est mauvais, il va en Guadeloupe, et puis après, il revient en métropole. C'est souvent comme ça que ça marche. Et donc, ce juge d'instruction n'a pas fait son travail, puisque par commission rogatoire, elle a refusé de mettre en examen la mère de ma fille et ses parents. Donc, j'ai été fortement en colère. Ensuite, j'ai médiatisé de nouveau, j'ai fait une grève de la faim, et j'ai obtenu gain de cause, en ce sens que le magistrat métropolitain et sa greffière sont partis faire le travail qui avait initialement démarré en métropole. Ensuite, il y a eu des expertises sur la mère de ma fille et qui ont démontré une femme hystérique et tout, etc. Mmh. Et au final, elle a obtenu un non-lieu. Voilà comment ça marche. Moi, pendant ce temps-là, j'étais privé de tous mes droits. Je précise qu'il n'y a jamais eu une résidence attribuée à la mère en Guadeloupe. Il n'y a aucun jugement, elle était entièrement déboutée de tout.
Et pourtant, de fait, elle gardait la petite.
Oui, et puis vous savez, le problème, c'est quand vous avez 10 000 km entre la France et la Guadeloupe qui vous éloigne de votre enfant, j'avais rencontré un avocat très professionnel qui m'avait dit « Vous allez vous ruiner et vous ne verrez jamais votre enfant. » Parce que quand bien même vous obtiendrez un droit de visite après ce qui vous est arrivé, alors que vous êtes innocent au niveau du civil en Guadeloupe, ce droit de visite ne sera pas respecté. Rendez-vous compte de ce qu'elle a osé faire pour kidnapper votre enfant. Donc, ça va durer des années. Vous allez payer des déplacements. Vous allez aller sur place, vous ne verrez jamais votre enfant. Vous allez repartir en pleurant. Ça va durer. Vous allez faire des mains courantes, des plaintes, oui, et tout, etc. Et puis, à la 30e, on va peut-être dire à la maman, bah, écoutez, il faut peut-être que vous présentiez l'enfant au père. Voilà comment ça marche. Ensuite, vous êtes psychologue, donc vous voyez où je veux en venir. L'enfant, tout se joue dans sa tête avant 6 ans, syndrome d'aliénation parentale. Mmh. Et là, je sais de quoi je parle, puisque j'ai retrouvé ma fille. Elle est à 200 km de chez moi en métropole. Elle refuse de me voir. Je l'ai retrouvée sur Facebook. Voilà. Donc, tout va
elle
bien, madame Lamarche.
Elle a quel âge aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, elle est de 94, donc elle a 25 ans. Voilà. Le sabotage a été parfait de A à Z. Mon ex n'a jamais été condamné, n'a jamais rien pris en termes de sentence. Idem pour les parents qui ont été très complices de cette affaire. Donc voilà,
c'est révoltant.
Il y a de quoi. J'ai été très marqué. Alors j'ai un petit peu avancé dans le débat.
Oui, parce que malheureusement, il nous reste assez peu de temps.
Voilà, justement. Il y a 2 ans, ça va faire 2 ans au mois de novembre, j'ai perdu ma maman qui s'est fait écraser par un chauffard. Et là encore, merci la justice. 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de retraite permis et 2 fois 150 euros d'amende parce que la voiture avait un contrôle technique qui n'était pas fait depuis 10 ans et c'était une épave. Donc voilà, on tue quelqu'un, un piéton qui ne fait rien de mal, on prend 6 mois de prison avec sursis. Donc c'est quand même plus que léger. Voilà. Alors maintenant, je vais venir un petit peu à ce qui m'arrive. Dans ma vie sentimentale, j'ai malheureusement rencontré des femmes un peu compliquées. Bon, la mère de ma fille en était une, mais il y en a eu malheureusement d'autres. Mmh. Alors, je ne me prends pas pour un messie, je ne me prends pas pour un sauveur. Je suis quelqu'un, je pense, sans être, égocentrique. Je suis quelqu'un d'assez équilibré, assez généreux, et je respecte beaucoup les femmes. Alors voilà ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines. J'ai rencontré une femme sur Internet, on a beaucoup discuté. Il y avait un bon feeling. Et puis un jour, je reçois un message un petit peu tordu parce que je n'avais pas répondu sous 24 heures. Elle me dit « J'étais heureuse et en même temps surprise, je n'ai pas eu de tes nouvelles. » En fait, comme si on était déjà ensemble, vous voyez, ça m'a fait bizarre.
Oui, ça fait vieux couple.
Voilà, exactement. Donc, j'ai passé l'éponge, on s'est rencontrés dans un bar, on a fait un karaoké, ça s'est bien passé, on est sortis ensemble. Voilà, on a passé quasiment un week-end ensemble, enfin on n'a pas couché ensemble, je veux dire on a passé les 2 jours ensemble, c'était magnifique. On s'est téléphoné régulièrement. Et le souci, c'est qu'elle communique beaucoup par SMS et très peu par téléphone. Et moi, j'aime pas du tout cette communication parce que déjà, c'est pas vous que je vais dire ça, mais un couple qui se voit de visu a du mal à se comprendre. Alors, quand vous communiquez avec des mails ou des SMS...
On est dans l'interprétation permanente, là. Ouais.
Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Donc, après, on a fait une sortie, on a été au restaurant. Elle a un chien, moi aussi, donc l'histoire commençait bien. Et puis, on s'est pris la tête un soir, tout simplement parce que j'ai donné rendez-vous chez moi, je voulais lui préparer un petit repas, et au moment de préparer le petit repas, j'avais une bonne bouteille de vin, mais je n'avais plus de verre à vin. Donc je me suis dit, bon, elle arrive à 7h25, j'ai le temps, je vais acheter 3 verres et je reviens. Et madame a patienté 10 minutes, c'était le drame parce que je n'avais pas pris mon portable et parce que je ne m'étais pas justifié. Voilà, donc...
Ce qui n'est pas très juste parce que ça partait d'une bonne intention de votre part.
Voilà, tout à fait. Alors ensuite, bon, elle m'a parlé de thérapeute conjugal et tout, etc. Je dis, oh, mais attends, ça fait 10 jours qu'on sort ensemble. Je dis, écoute, on a peut-être besoin d'une mise au point. Je préfère mieux qu'on se prenne la tête maintenant et puis que dans 2-3 mois, ça aille bien que l'inverse. Hein, parce que les couples où tout va bien, en général, y a quelque chose qui ne va pas au mieux. Quoi. Donc voilà. Donc, on a passé le week-end dernier un magnifique week-end. On a été pendant 2 jours se baigner en Haute-Saône à côté. Je l'ai amenée en discothèque, c'était également une surprise. Elle a passé la nuit avec moi, on a fait l'amour et tout, c'était très bien. Lundi, on se revoit, tout va bien, on se balade. Donc, moi, je me disais, enfin, la relation est posée. Et puis là, le clash, le lendemain, j'ai un SMS, rapport de police quasiment. Comment étais-tu hier? Je t'ai senti distant, tu ne parlais pas et tout. Je dis, mais non, pas plus que toi, j'étais peut-être un peu fatigué. Je dis, il n'y a rien, écoute, je te souhaite une bonne semaine, à bientôt. Et puis, mardi, rupture par SMS, déjà depuis quelques jours, je pensais rompre parce qu'on n'est pas du tout dans le même feeling et tout, etc. Alors, il faut savoir que c'est une femme, son rêve, c'est de vivre avec un homme. Elle est divorcée depuis 10 ans, elle a 2 enfants de 18 et 16 ans, je précise que moi, ses enfants, aucun souci. À la fête de la musique, on était ensemble, et elle m'a repoussé la main à un moment donné parce qu'elle a appris que ses enfants venaient. Ah, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi. On peut être main dans la main, se faire un bisou. Au contraire, tes enfants le sauront, c'est plus spontané que de se faire un plan sur la comète. Je dis, écoute, tu m'as dit que t'étais une femme, t'es une mère, mais t'es également une femme, donc je veux dire, on ne fait rien de mal, quand même, c'est la vie. Ton fils de 18 ans ou ta fille de 16 ans, ils ont peut-être un petit copain, une petite copine, quoi. Donc déjà, ça m'a un petit peu blessé. Et puis voilà, et c'est quelqu'un qui en fait calcule tout le temps. Elle est comptable en plus de métier, donc voilà. C'est dommage parce qu'elle a un côté un petit peu vieille France qui me plaît bien. Moi j'ai un côté un peu artiste.
Non, je suis pas très sûre qu'elle vous convienne. Moi j'ai l'impression que vous vous remettez dans une situation là qui est pas juste pour vous. Et dans votre histoire, il y a eu beaucoup de violence, mais il y a eu beaucoup de situations injustes. C'est ce que j'entends. C'est pour moi, c'est le dénominateur commun de toute votre histoire de vie, c'est l'injustice.
Alors, je vais vous donner un petit élément quand même de la
très vite, parce qu'il nous reste une minute, on va être obligé de terminer.
Eh ben, l'histoire s'est terminée comme ça, c'est-à-dire que on a échangé. Moi, j'ai répondu à son SMS qu'elle m'avait envoyé, et puis j'ai mis un bouquet de 10 roses sur son pare-brise avant-hier, et elle m'a juste envoyé un petit message ce matin. Merci pour ces belles roses parfumées. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, je sais pas si elle reviendra, je sais pas si elle fera son mea culpa, je sais pas si je pourrais construire, avancer avec elle, parce qu'elle a vraiment envie d'une belle histoire, et moi aussi, mais je pense qu'effectivement, j'ai trop laissé les choses passer, je me suis pas fait affirmer, parce que je voulais la garder, parce que j'ai un début de sentiment pour elle, et je pense qu'elle est sincère, et c'est quelqu'un de bien,
oui,
mais elle est
mais
vraiment
vous êtes reparti sur un schéma de quelqu'un de compliqué.
D'accord.
De ce que j'entends. Peut-être parce que vous êtes tellement abattant que vous êtes en terrain connu, là où il faut se bagarrer. Mais est-ce que c'est
ah ben moi je lâche pas, j'ai pas peur. Moi, pour moi la vie
c'est ce que j'entends. La vie est un combat pour vous depuis très longtemps. Mais est-ce qu'une histoire d'amour c'est pas autre chose qu'un combat?
Ah non, c'est du lâcher prise.
Mais oui.
Et moi justement, elle me reproche si vous voulez d'être dans le lâcher prise total. Moi je me prends pas la tête. Du moment que j'ai mon travail, mon frigo est plein. Bon, si c'est un peu le chantier chez moi, c'est pas la fin du monde. Les poubelles sont sorties, c'est propre. Bon, il doit y avoir une paire de chaussures qui traînent, c'est pas la fin du monde. Alors que j'imagine chez elle, ça doit être le château de Versailles, quoi.
Ouais, moi j'ai l'impression que vous vous mettez dans un truc un peu compliqué encore.
D'accord.
Vous êtes toujours et c'est normal d'après tout ce que vous avez vécu. Vous êtes sur un mode combattant. Mais à un moment donné, c'est assez bien quand même d'avoir une relation simple, normale, avec une femme juste simple, vous voyez ? Pas de trucs compliqués. Au bout de 3 semaines, vous vous rendez compte comment elle vous prend la tête au bout de 3 semaines ?
Oui, mais moi, je n'ai pas été forcément tendre aussi. J'ai peut-être été un peu dur dans mes mots. Je ne suis pas violent, mais bon, j'ai essayé d'un petit peu de la recadrer. Ouais, tu pousses le bouchon un peu trop loin, là. Il faut arrêter tes caprices de gamine, quoi. Voilà ce que je t'ai dit. Je dis, c'est bon. Hein. T'as 48 balais, j'ai 51.
Je suis désolée, voilà. L'émission se termine. C'est vraiment, ça passe trop vite. J'en suis navrée. Rappelez-moi peut-être un soir, si vous voulez, qu'on parle plus longuement de ça. Mais
ah oui,
protégez-vous, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas encore détruire par une femme.
Hein, d'accord.
Soyez conscient de votre valeur. Je vous embrasse. Notre émission se termine, ça passe tellement vite, j'en suis désolée. Merci à vous tous qui êtes venus partager des moments de vie avec nous ce soir. Merci à vous pour vos SMS qui ont été nombreux. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h avec le même plaisir. Et je vous rappelle que demain, notre émission sera consacrée aux vacances. Vacances extraordinaires, vacances insolites, vacances catastrophes. Mais aussi à la solitude, à l'angoisse que ça peut représenter pour vous, ces moments de vacances si vous êtes seul. Venez nous en parler demain soir, appelez le 3921 pour vous inscrire ou alors par mail libreantenne@europe1.fr.